Dime qué son los secretos de tu
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, préparée par Marie Dalquier, réalisée par Véronique Villa. Aujourd'hui, nous ne recevons pas, mais nous sommes accueillis par Pierre Rabhi pour parler de la sobriété heureuse. Pierre Rabhi, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous vous avions invité il y a quelque temps aux Racines du Ciel, à Paris, puis vous avez été malade, vous n'avez pas pu venir. Alors, vous voyez, nous tenons à vous, alors nous sommes venus à vous pour pouvoir vous rencontrer. Et c'est un plaisir de pouvoir découvrir où vous vivez, parce que finalement, cette terre a une importance très importante dans votre vie. C'est le lieu où, depuis plus de 45 ans, je crois, vous vivez dans cette ferme. C'est vrai que là, on est dans une très belle nature. Nous sommes dans les Cévennes ardéchoises. C'est un lieu sauvage, assez âpre. Et vous avez choisi de vivre là, je disais, depuis plus de 45 ans. Qu'est-ce qui a motivé ce choix?
D'abord, je vous remercie. Je suis très honoré que ce soit vous qui vous déplaciez de Paris pour venir me voir. D'abord, ce qui a été, si vous voulez, à l'origine du choix, alors je précise que je suis né dans le Sahara, dans le désert, la porte du grand désert, de double culture, si vous voulez. Bon, suite au décès de ma mère, j'ai été confié à un couple de Français venant travailler dans les mines du Sud pour être éduqué. Voilà, ce qui fait que je suis ce qu'on pourrait appeler un double culture depuis déjà l'âge de 5 ans. Où je suis passé de la modernité plutôt de la tradition à la modernité, de l'islam au christianisme. Je suis en plus gémeaux, je ne sais pas si ça a un sens, mais enfin. Donc j'ai mené, si vous voulez, une vie qui a toujours été en quelque sorte double.
On est tous gémeaux ici.
Ah bon?
Lélie Anvar, la réalisatrice.
Vous voyez, bienvenue au club.
Donc, on vous comprend.
Oui. Et donc la suite de l'histoire, c'est que quand vous êtes comme ça, un peu plongé dans une culture qui n'est pas la vôtre, et ça vous déconcerte quelque part, bien sûr, et le questionnement va même profond dans le sens où, même au plan religieux, qui a raison? Parce que dans l'islam, on vous dit Dieu est transcendant, n'a ni été engendré, ni engendré. Ma mère chrétienne me dit que Jésus, c'est le fils de Dieu, etc. Alors, il y a évidemment toutes ces contradictions. D'un côté, on vous dit surtout ne touchez pas au porc, par exemple, le porc, le cochon, il ne faut pas manger de cochon. De l'autre côté, on se régale avec du saucisson, etc. Donc, ce qui fait que vous êtes immédiatement dans des énormes schizophrènes. Voilà. Et dans ce questionnement, mais finalement, qui a raison? Voilà. Et ce qui amène évidemment à négliger un peu les contingences du monde d'aujourd'hui pour se poser des questions fondamentales sur finalement où se trouve le vrai, où se trouve, sans pas avoir l'ambition de vouloir la vérité, mais où se trouve le vrai. Ce qui fait que dans ce questionnement, j'ai plutôt que d'être un performant dans les mathématiques ou la physique ou quoi que ce soit au plan scolaire où j'ai traîné un peu comme j'ai pu, parce que je ne croyais absolument pas à ce qu'on m'enseignait. Ça m'avait fait fréquenter beaucoup les philosophes. C'est-à-dire que le philosophe, c'est celui qui s'interroge, au moins se pose les questions sur l'existence. Il est en quête de vérité, si vous voulez. Ensuite, on constate que même les philosophes ne sont pas d'accord entre eux, qu'il y a des divergences, qu'il y a parfois des convergences. Et puis finalement, mon grand ami, c'est Socrate, parce que Socrate déclare que je sais que je ne sais pas. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une vérité absolue qui reste toujours extrêmement vivante. Alors, au cours de ce périple, se pose la question, quel est le sens de la vie, le sens du monde, dans ces contradictions culturelles, etc., etc. Et puis finalement, comme j'étais quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à ce qu'on pourrait appeler l'évolution de l'histoire, avec ses paradigmes, si vous voulez, ses diverses situations historiques. L'histoire humaine, finalement, il y a des invariants. L'être humain, depuis l'origine, il est ce qu'il est, avec sa peur, avec sa pensée, avec le questionnement sur l'au-delà, la mort, etc., d'où nous restons égaux à nous-mêmes, égaux à nous-mêmes depuis les origines, mais avec des situations historiques qui varient, qui changent. Et quand on arrive aujourd'hui à la situation du monde d'aujourd'hui, finalement, on sent que c'est dominé finalement par le paradigme d'une modernité technico-scientifique avec un homme démiurge. C'est-à-dire que vous allez voir ce que vous allez voir avec la raison, le savoir, on va faire. Et puis on instaure la civilisation la plus fragile de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la civilisation moderne reposant sur l'énergie, si vous voulez, sur l'exhumation du pétrole et des énergies, et du coup, avec cette dépendance que l'on ressent aujourd'hui par rapport à cela.
Alors, comme il commence à pleuvoir, on va rentrer chez vous pour suivre cette conversation, oui. Parce que je pense que le nagra de Véronique va souffrir.
Comme une ombre sur sol poussière.
Vous nous disiez, Pierre Rabhi, que vous avez donc découvert, vous êtes passé de ce monde traditionnel que vous avez connu enfant au Maroc à cette modernité occidentale que vous avez découvert quand vous êtes venu en France dans les années 50, je crois, et ce monde démiurgique qu'on essayait de faire, où on pensait que par la technique, par le progrès, on allait réussir à créer un monde meilleur. Et puis pourtant, vous avez très vite pris de la distance avec ça, puisque je crois qu'avec votre femme, Michel, vous étiez ouvrier et vous avez décidé de quitter le monde urbain pour venir vivre en Ardèche, dans cet endroit où nous sommes aujourd'hui avec vous, où vous vivez depuis très longtemps. Et qu'est-ce qui a motivé vraiment ce choix? Qu'est-ce que vous vouliez faire?
Ce que j'ai découvert, c'est que la modernité, évidemment, en partant de ce principe de l'homme démiurge, l'homme puissant, avec la technique, la science, etc., grisé par ses découvertes, etc., finalement, il m'a semblé qu'il faisait fausse route parce qu'il rompait, en quelque sorte, avec les fondements pérennes de la vie elle-même. C'est une civilisation du minéral, c'est-à-dire l'exhumation de matières minérales qu'on exalte aujourd'hui, à tel point qu'aujourd'hui, on en manque. D'ailleurs, on est très inquiet par rapport au manque de ce minéral, avec évidemment une réorganisation sociale qui a suscité l'urbanisation à outrance, la concentration des êtres humains dans de la matière minérale, c'est-à-dire le confinement humain dans les villes et l'éloignement, et puis un discours qui était n'exaltait plus la nature, c'est-à-dire que l'homme hors sol. Sa pensée se restrécit, se restreint à des phénomènes simplement physiques dont il est grisé, physique, biologique, etc., mais avec une distance très très importante avec les fondements de la vie. Donc quand quelque chose se construit hors des fondements de la vie, on sait très bien que ça a des limites, puisque la vie, elle, est pérenne, et puis qu'elle ne nous a pas attendu. Ça fait des milliards d'années que nous sommes là. Quand la représentation banale de dire si on prenait 24 heures, ben on serait sur 24 heures, notre avènement serait dans les deux ou trois dernières minutes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a bien avant nous quelque chose de grandiose, quelque chose d'extraordinaire, à la fois la Terre, à la fois les étoiles, à la fois les autres planètes, à la fois ce phénomène extraordinaire. Considérable, notre avènement advient dans ce phénomène-là. Après une histoire terrestre que l'on peut maintenant, dont on peut faire la rétrospective, et puis on se dit, mais finalement, l'être humain, c'est quoi dans ce phénomène? Et c'est là où je rejoins un peu Teilhard de Chardin, où finalement, se poser la question sur le phénomène humain, ça veut dire que nous nous interrogeons profondément sur notre raison d'être. Et finalement, on constate que nous sommes les êtres les plus brutaux, les plus sanguinaires et les plus méchants qui soient. Et puis, en même temps, on est capable d'admirer, on est capable de s'alimenter de la beauté de la vie.
L'humanité a produit tout ça, mais elle a aussi produit Socrate, Bouddha, Jésus, Mère Teresa. Il y a aussi des êtres humains qui ont montré d'autres voies possibles que la domination.
Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a des consciences qui effectivement ont été des consciences éclairées. Mais ces consciences éclairées, la plupart du temps, c'est qu'elles ont gardé une connexion avec la transcendance. Si elles gardent une connexion avec la transcendance, le questionnement sur la raison d'être de l'humanité nous amène bien sûr à nous dire, mais finalement, on sert à quoi? L'humanité a un rôle très très important, justement, qui est la spiritualité fondamentale, c'est d'admirer et de prendre soin. Admirer et prendre soin. Voilà la spiritualité réelle pour moi. Ensuite, c'est du blabla. On remplit les bibliothèques de théologie, etc. Et moi, quand je me mets dans la perspective christique, elle est très simple. Hein. Le Christ s'est trouvé dans des situations qu'on pourrait transposer au monde d'aujourd'hui. Il était en Palestine, enfin ce qu'on appelle Israël de l'époque. Israël était occupé par les Romains, donc était colonisé. On attendait un Christ guerrier, voilà, que c'est un Christ qui dit, c'est l'amour, aimez même vos ennemis. Et donc du coup, il pose fondamentalement ce que devrait être aujourd'hui la posture de l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire l'amour comme la puissance absolue.
Lilian Var.
Oui, bonjour. Je suis très heureuse que vous ayez cité Teilhard de Chardin comme étant un de vos familiers, je dirais, oui. Sur tous les plans. Et ce que vous venez de dire, évidemment, est aussi très, très proche de ce qu'il a pu développer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi justement un texte de Teilhard de Chardin pour aujourd'hui. Et alors... ce qui m'a beaucoup touchée, c'est dans tout ce que vous écrivez, tout ce que vous dites et tout ce que vous êtes, c'est cette idée de ne jamais séparer les racines du ciel, à savoir précisément la terre de laquelle vous vous nourrissez dans tous les sens du terme, et cette spiritualité que vous venez d'évoquer, et de les relier très profondément. Il me semble que Teilhard de Chardin était aussi dans cette démarche, et que, à la fois en tant que scientifique, en tant que penseur et en tant que chrétien, et donc j'ai choisi un texte extrait de L'Esprit de la Terre, précisément. Par sens de la Terre, il faut entendre le sens passionné de la destinée commune qui entraîne toujours plus loin la fraction pensante de la vie. En droit, aucun sentiment n'est plus fondé en nature, ni donc plus puissant que celui-là. Mais en fait, aucun non plus ne saurait s'éveiller plus tard, puisqu'il exige pour son explication que notre conscience... émergeant au-dessus des cercles grandissants, mais beaucoup trop restreints encore, de la famille, des patries, des races, découvre enfin que la seule unité humaine, vraiment naturelle et réelle, est l'esprit de la Terre. Sous l'excitation des découvertes répétées qui, en l'espace d'un siècle, ont révélé coup sur coup à notre génération d'abord les profondeurs et la signification de la durée, puis les ressources spirituelles illimitées de la matière, et enfin les puissances des vivants associés, il semble que notre psychologie soit en train de changer. Une passion nouvelle, victorieuse, commence à se dessiner, qui balayera ou transformera ce qui a été jusqu'ici les puérilités de la Terre. Et son action salutaire vient juste à point pour contrôler, réveiller ou ordonner. Les forces émancipées de l'amour, les forces dormantes de l'unité humaine, les forces hésitantes de la recherche. Peut-être un commentaire sur justement la façon dont il réunit l'amour, l'unité humaine et la recherche scientifique.
Je souscris évidemment totalement à cette perspective, c'est-à-dire qu'il nous place dans une évolution et pas dans une stagnation. Je pense qu'aujourd'hui, on va être de plus en plus dans ce qu'on appelle la sociologie des consciences. Nous sommes tous enlisés dans notre histoire et prisonniers de notre histoire. Nous ne pourrons jamais construire un avenir si nous nous cramponnons, si nous restons strictement attachés à notre propre histoire. Personnellement aussi, j'ai compris que quand on m'a poussé, par exemple, à me présenter aux élections présidentielles de 2002, j'ai tenté cette expérience, non pas pour devenir président, Dieu m'en garde, mais c'est plutôt pour dire « saisissons cet espace ». De débat pour mettre dans la politique ce que les politiques ne mettent jamais, c'est-à-dire effectivement le féminin au cœur du changement, c'est aussi une éducation qui ne se fonde pas sur la compétitivité mais sur la solidarité, qui apprend à l'enfant la solidarité, qui le, qui lui révèle la vie à travers la nature, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie. C'est aussi les utopies, incarner les utopies, parce que sinon on reste dans un modèle de société, prisonnier dans un modèle de société, et heureusement qu'il y a des gens qui transgressent.
Alors justement, on en vient à ce que vous avez fait vous-même depuis 50 ans, c'est-à-dire incarner une utopie. Oui. C'est exactement ça. Donc dites-nous un petit peu, pour que nos auditeurs qui ne connaissent pas bien votre travail depuis 50 ans, quelle était votre utopie quand vous êtes venu vous installer ici, dans cette ferme d'Ardèche?
Bien sûr, elle est fondée sur une forme de protestation. Je considérais que l'autre système, le système actuel, travesti de toutes les belles formules, liberté, égalité, fraternité, enfin des formules inépuisables qui sont très esthétiques. Mais en fait, ça ne correspond pas à une réalité. Et ce que je voyais, c'était que dans le monde moderne, sous la rubrique de la démocratie, de la liberté, etc., c'était aussi l'asservissement de l'homme par l'homme, qu'on le veuille ou non, avec une hiérarchie d'êtres humains importants en haut de la pyramide et des êtres humains pas importants en bas de la pyramide, avec toutes ces hiérarchies à l'intérieur d'un système de travail dans lequel que j'ai connu, où finalement je me disais, mais ceux qui font le travail subalterne devraient être finalement mieux payés que les autres, parce qu'il pourrait y avoir une compensation par rapport à l'aliénation qu'ils subissent. Et ensuite, donc, toute cette idéologie qui manipule l'âme et la conscience humaine et qui produit du consentement. Donc à partir du moment où l'être humain a été manipulé pour être consentant, eh ben il est prisonnier, il est figé. On vous dit par exemple que la modernité va libérer l'être humain. Et puis moi, dans mon microcosme de travail, je voyais qu'on était incarcéré. Et ensuite, en réfléchissant finalement à l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, qu'est-ce que je constate? Ben, que la maternelle à l'université, il est enfermé. Donc c'est le bahut, ensuite on a des casernes pour apprendre à tuer, tout le monde travaille dans des boîtes, des petites boîtes, des grandes boîtes, même pour aller s'amuser on va en boîte, on y va dans sa caisse, et on a la boîte à vieux, puis la dernière boîte que je vous laisse deviner. Alors comme itinéraire de vie, je ne vois vraiment pas en quoi nous sommes libérés. Et en plus, cette aliénation donne à l'argent la toute puissance. Vous en avez, vous vivez, vous n'en avez pas, vous ne vivez pas. Donc ça veut dire que vous avez finalement choisi une forme d'aliénation qui enjolive en quelque sorte une situation qui est tragique. Alors, on manque pas de formules pour mettre de la belle peinture sur des réalités qui n'en sont pas. Et si aujourd'hui, dans des pays même riches, il y a de la misère, et la pire des misères, c'est-à-dire celle qui aboutit à faire de l'être humain, à donner le sentiment à l'être humain qu'il n'a aucune importance. Peu importe l'être humain, pourvu que le produit national brut augmente, on est en train de constater que plus on augmente le produit national brut, plus on augmente l'indigence. Un chef d'entreprise va évacuer des gens pour augmenter son bénéfice, mais il va faire de l'anti-humain pour pouvoir augmenter le bénéfice. Et ensuite, ça exacerbe évidemment cet instinct prédateur